Vous êtes sur RTL.
RTL Matin.
6 minutes pour trancher.
8h23, bonjour Alain Renaudin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes président de l'agence de communication Newcorp Conseil. Vous êtes également fondateur de Biomime Expo. C'est une grande exposition itinérante qui met en lumière les prouesses humaines inspirées par les prodiges de la nature. Vous étiez présent à Paris il y a quelques semaines. On parle donc ce matin de biomimétisme. C'est une notion qu'il faut que vous définissiez pour nous avec les mots les plus simples possibles, s'il vous plaît.
C'est une notion, vous allez voir, assez simple à définir, même si les applications sont multiples et complexes. L'idée de base, c'est de considérer que la vie est apparue sur Terre il y a 3,8 milliards d'années.
Oui.
Comparé à nous,
là, je vous suis.
Pauvres Homo sapiens, sapiens qui n'avons que 150 000 ans d'existence. Et donc, l'idée, c'est de s'inspirer du vivant, de la nature, si vous voulez, des stratégies à multiples échelles, que ce soit au niveau de l'organisme ou au niveau d'un écosystème, pour voir comment nous pouvons améliorer notre condition d'espèce humaine.
Donc, pardonnez-moi, l'observation de la nature par l'homme afin de s'inspirer de ce que le vivant fait de mieux pour créer, c'est cela ?
Oui, le vivant a cette capacité à s'améliorer en continu, à être très économe en énergie dans ses process de fabrication, à généralement travailler et s'approvisionner en circuit court, à développer des bénéfices écosystémiques par les interactions bénéfiques que les espèces et les essences nouent entre elles. Et donc, comment résoudre nos enjeux contemporains en s'inspirant de quelque chose qui a fait ses preuves, qui est le vivant.
Alors, en vous écoutant, on se dit que c'est assez simple sur le papier, puisque vous nous parlez de dons d'observation sur le vivant qui nous entoure, qui nous a même permis d'être là et qui visiblement fonctionne très bien et économe, si je vous ai bien compris, ce qui est important. Est-ce que c'est une notion récente et est-ce que cette, on va dire, à la fois la terminologie et l'idée sont apparues récemment ?
Alors, c'est à la fois très ancien et très nouveau. C'est très ancien dans la mesure où probablement que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs se sont inspirés de leur environnement pour améliorer leur technique de chasse. C'est ancien dans la mesure où probablement Léonard de Vinci est le premier biomiméticien qu'on a pu observer. C'est ancien parce que depuis 40 ou 50 ans, nous avons des laboratoires de recherche en France qui travaillent sur le sujet. Vous prenez quelqu'un comme Jacques Livage au Collège de France, qui a 80 ans, qui est une figure emblématique, qui est passionné des diatomées, ces organismes unicellulaires marins qui fabriquent une coque de verre à température ambiante et en milieu aqueux, là où nous avons besoin de hauts fourneaux à 1500 degrés. Donc tout ça est ancien.
Mais là, vous venez de me citer les hommes préhistoriques, Léonard de Vinci,
voilà,
et nos plus grands scientifiques français. Et tout ça, ça biomimétise en...
Oui. Alors on parle de bio-inspiration ou de biomimétisme, c'est ancien et en même temps c'est très moderne et très nouveau et très tendance on pourrait dire, parce que ce qui est nouveau, c'est pas le biomimétisme. Ce qui est nouveau, c'est l'urgence de nos enjeux.
Oui.
Et donc le biomimétisme, c'est une forme de redécouverte. On redécouvre à quel point nous devons être modestes et humbles face au vivant, et à quel point le vivant et la nature n'est pas un problème mais une solution.
Alors maintenant, justement, allons dans les solutions, parce que c'est intéressant, je crois qu'on a fixé le cadre grâce à vous. Quelles sont les plus grandes avancées, peut-être les plus grands projets qui, à votre connaissance, sont nés de l'observation des êtres vivants, puis après on se projette dans le futur?
Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu multi-échelle. C'est-à-dire qu'on peut être à un niveau nanométrique. C'est-à-dire comment s'inspirer, vous allez avoir l'image mentale d'un papillon bleu qui s'appelle le Morpho, qui vit en Amazonie. C'est un beau papillon d'une couleur bleue iridescente. C'est une coloration dite structurale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pigments, il n'y a pas de chimie. Il a quatre tuiles d'une certaine manière en surface, quatre écailles qui sont de différentes tailles, de différents formats, alignées de différentes manières, qui vont faire qu'il va refléter la lumière dans les tons de bleu pour draguer les femelles et pour dire aux autres mâles qu'il est sur son territoire.
Et qu'a-t-il à nous dire? Si ce qu'il a bien d'être en bleu pour draguer les femelles.
Ce qui est nouveau, c'est que jusqu'à maintenant, on avait une description, la description du biologiste. La description du biologiste, quand aujourd'hui elle dit à l'ingénieur que c'est une coloration structurale sans pigments, ça va intéresser des entreprises comme L'Oréal. Quand le biologiste dit à l'ingénieur que le papillon morpho vit bien à 40 degrés, mais à 45 degrés, il devient iridescent, c'est-à-dire il va renvoyer la chaleur, il est en autorégulation thermique.
Oui.
C'est intéressant pour des matériaux qui sont exposés à de fortes amplitudes thermiques.
Et ça, on peut l'utiliser et en trouver des traductions concrètes aujourd'hui.
Oui. Aujourd'hui, l'actualité, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications. On passe de la recherche fondamentale à l'application. Toutes les semaines, nous faisons de la pige et de la veille sur le sujet. Toutes les semaines, nous remontons des applications. Le lien entre la recherche fondamentale et les applications industrielles se développe. On a aujourd'hui en France, que j'appelle moi bien volontiers, la Biomime French Tech. Vous parliez des escargots tout à l'heure, oui. On peut les savourer à Noël, mais on peut aussi s'en inspirer pour développer une colle chirurgicale. Une boîte s'appelle Tissium, qui travaille avec le MIT américain, est à plus de 50 millions de dollars de levée de fonds, et il s'inspire des stratégies d'adhésion des escargots ou des organismes marins pour développer une colle chirurgicale qui fait de la suture sans suture.
Au Massachusetts
MIT.
Au MIT.
Oui. Au MIT, il y a beaucoup de recherches en bio-inspiration. Si vous voulez, dans le biomimétisme, les Américains sont assez forts, et notamment en matière d'application économique et industrielle. L'Allemagne est très structurée, et ce qui est nouveau en France, c'est depuis 4 ou 5 ans, on se structure, on s'organise. On a une excellence académique fabuleuse en France sur le biomimétisme.
Vous nous confirmez qu'on a parallèlement un centre de recherche sur le biomimétisme, notamment Senlis ?
On a, il y a 5 ans, créé une structure associative qui s'appelle le Sébios pour fédérer cette communauté académique. Moi, j'ai pris l'initiative de créer l'événement Biomim Expo il y a 4 ans. On vient de faire la deuxième édition à Paris, parce que ça a démarré effectivement à Senlis. On rassemble ces communautés d'excellence et d'expertise pour voir comment on peut changer de regard sur le vivant et non plus considérer la nature comme un enjeu problématique ou anxiogène, mais comme un allié de notre développement et de la résilience de l'humanité, puisque c'est évidemment la résilience de l'humanité qui se pose aujourd'hui.
Donc, passer de l'observation du génie du vivant à du concret. Donc pour notre, oui. Notre survie sur Terre, ça
oui.
veut dire ça aussi
absolument. La question aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il faut régénérer le vivant, il faut le protéger, et il faut développer des aires de protection de la biodiversité. Mais le changement d'approche et le changement de regard que propose le biomimétisme, c'est de considérer que c'est pas l'homme qui va sauver la planète. C'est évidemment la planète qui va sauver l'homme. C'est-à-dire c'est la nature qui va se mettre au service. Comment s'inspirer du vivant pour améliorer le bien-être de la population humaine et améliorer la capacité de résilience, c'est-à-dire de réaction au choc, de l'espèce humaine,
qui est
une espèce récente.
Je retiens de ce que vous nous dites, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, que, en tout cas, la préservation du vivant et le respect du vivant est devenue une donnée essentielle. C'est-à-dire qu'on en avait conscience plus ou moins, mais là, j'ai bien... Les outils de notre avenir sont là.
Oui, c'est une redécouverte, c'est une forme de boîte à outils du développement durable. On a très longtemps fait la pédagogie du pourquoi il fallait qu'on change, qui est de temps en temps une pédagogie anxiogène tant qu'on ne propose pas de solution. Avec le biomimétisme, on fait la pédagogie du comment on peut s'adapter, tout simplement en prenant comme modèle quelque chose qui a fait ses preuves, qui s'appelle la vie, qui s'appelle le vivant, qui s'appelle la nature, qui a de multiples leçons à nous donner.
Ça fonctionne pas mal, donc respectons-la, si je vous ai bien compris.
Absolument. Généralement, ça démarre par du réémerveillement, de l'amour, de l'humilité et de l'envie de s'intéresser à tout ça. Et quand vous saurez qu'un ver marin peut vous sauver la vie, ben vous ne marcherez plus à marée basse en Bretagne de la même manière.
Bon, alors je vais réfléchir aussi avant de cuire mes langoustes et mes homards, si j'ai bien compris.
Hein, absolument.
C'est ça. Oui, en cette période de fête, c'est important. Merci beaucoup Alain Renaudin.
Merci
je rappelle
à vous.
Que vous présidez l'agence de communication New York, New Corp Conseil, pardonnez-moi. Et vous êtes également fondateur de Biomim Expo.